Bonjour à tous. Ce matin, nous continuons avec notre étude de l'Épître aux Romains. Et donc nous continuons avec donc la fin du chapitre 2. La semaine, donc pas la semaine dernière, mais il y a 15 jours, c'est Luc qui nous avait conduit donc, dans l'étude de cette première partie. Et donc ce matin, nous continuons à partir du verset 16, donc jusqu'à la fin du chapitre 2. Alors avant que je commence la lecture, donc je veux dire deux choses par rapport à la structure de ce chapitre. On va commencer avec le verset 16. Et en fait, donc ce chapitre a une structure, alors on dit en chiasme, c'est-à-dire que c'est une structure où des idées qui avaient été apportées dans une première partie, en fait, sont reprises dans une deuxième partie en miroir. D'accord ? Et le chapitre, le verset 16, en fait, c'est le verset pivot qui fait la bascule, en fait, entre la première façon d'exposer une idée et puis une deuxième. Et ce chapitre 2 est en fait un chapitre assez difficile sur le plan théologique ou doctrinal, la façon d'interpréter les versets en fait qui sont dans ce chapitre en fait c'est un sujet de débat assez intense entre théologiens. Donc dans le livre que j'ai utilisé qui était dans la bibliothèque pour préparer un peu cette étude mentionne une dizaine de façons différentes de comprendre ce passage. Alors, je dis ça en fait pour vous permettre de d'anticiper un petit peu. Alors, l'avantage, c'est que le passage, donc les versets qu'on va lire, donc qui reprennent les premiers versets, en fait, sont plus faciles parce que la difficulté qu'il y avait dans les premiers versets, c'était que donc Paul prend du recul par rapport à la situation de l'Église. Donc on a déjà abordé ce point-là plusieurs fois en fait en introduction, mais donc l'opposition de l'Église de Rome entre les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens, d'accord ? Donc les chrétiens qui viennent d'un arrière-plan juif et ceux qui viennent d'un arrière-plan païen. Et donc dans le texte, c'est l'opposition entre les juifs et les grecs. Donc c'est ça le contexte. Et Paul, donc dans la première partie, a commencé donc sous la forme d'une diatribe. Donc il s'adresse, il va recommencer d'ailleurs dans cette partie-là, dans la deuxième partie, en commençant avec un « toi qui juge ». D'accord ? Et la difficulté, donc il prend un peu de recul par rapport à la situation de l'Église, et il va apporter des généralités en fait sur la relation de l'homme à Dieu, et la difficulté c'est d'arriver à comprendre de qui il parle exactement. C'est ça qui est compliqué. Et dans la partie qui va nous occuper, c'est plus facile parce qu'on va voir assez vite à qui il parle. Et en fait, on va voir qu'il parle, vraiment aux personnes qui sont dans l'Église de Rome à ce moment-là. Et donc, ce sera plus facile. Malgré tout, on va quand même revenir un petit peu. Alors, Luc a abordé ce texte il y a 15 jours en étant très proche du texte. Il a fait ça verset par verset avec beaucoup de talent, je veux dire. Moi, je vais prendre un peu plus de recul par rapport au texte parce que je ne sais pas forcément le faire aussi bien que de la même façon que lui. On aborde souvent les textes avec nos propres façons nos propres façons d'y réfléchir. Donc moi, ce sera un petit peu différent de celle de Luc. Donc je commence au verset 16, qui est donc le verset charnière en fait de ce chapitre. Et j'y reviendrai à la fin. Donc le verset 16, donc je vais le lire dans la version Summer, Si jamais tu as ça, Gilles. C'est la semeur, très bien, merveilleux. Tout cela paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que j'annonce, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. Eh bien, toi qui te donnes le nom de juif, tu te reposes sur la loi, tu te vantes d'appartenir à Dieu, tu connais sa volonté et tu juges de ce qui est le meilleur parce que tu es instruit par la loi. Tu es certain d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui errent dans les ténèbres, l'éducateur des insensés, l'enseignant des enfants. Tout cela sous prétexte que tu as dans la loi l'expression parfaite de la connaissance de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches aux autres de ne pas voler et tu voles. Tu dis de ne pas commettre l'adultère et tu commets l'adultère. Tu as les idoles en horreur et tu en fais le trafic. Tu es fier de posséder la loi, mais tu déshonores Dieu en y désobéissant. Et ainsi, comme le dit l'Écriture, à cause de vous, juifs, le nom de Dieu est outragé parmi les païens. Assurément, être circoncis a un sens, à condition d'observer la loi. Mais si tu désobéis à la loi, être circoncis n'a pas plus de valeur que d'être incirconcis. Mais si l'incirconcis accomplit ce que la loi définit comme juste, cet incirconcis ne sera-t-il pas considéré comme un incirconcis? Et cet homme qui accomplit la loi sans être physiquement circoncis, tu jugeas, toi qui désobéis à la loi tout en possédant les Écritures et la circoncision. Car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision. Mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur, et la vraie circoncision est celle que l'esprit opère dans le cœur, non celle que l'on pratique en observant la lettre de la loi. Tel est le juif qui reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. Donc Paul reprend une diatribe et il s'adresse aux juifs qui sont dans l'Église. Et on voit bien la progression en fait dans ce passage. On voit bien en fait le sens premier. C'est Paul qui parle aux judéo-chrétiens de l'Église et qui leur montre que la supériorité qu'ils peuvent ressentir par rapport à leurs frères pagano-chrétiens, d'accord, eh bien cette supériorité n'a pas de raison d'être, n'a pas de fondation. Il montre aux Juifs que le fait de posséder la loi, de posséder la circoncision, eh bien, ces deux choses-là ne suffisent pas pour plaire à Dieu. Malgré la prétention, alors c'est intéressant, on va y revenir un petit peu après, mais cette prétention à guider. La façon dont il le dit est quand même assez forte. Hein. Donc tu es certain d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui errent dans les ténèbres. C'est une façon de le dire qui est quand même assez forte. Et donc les Juifs ont ce sentiment-là d'être une lumière pour les nations. Et c'est vrai. C'est vrai. Dieu a établi Israël pour être une lumière pour les nations, pour être un phare qui montre qui est Dieu. Donc c'est vrai, cette prétention des Juifs à représenter ça. Malgré tout, Paul dans ce texte dit « Tu prétends posséder la loi et donc pouvoir assumer ce rôle de conducteur, et pourtant, donc tu juges le monde, tu juges les autres, tu juges tes frères dans l'Église, parce que, alors Yann l'avait expliqué précédemment, mais la morale grecque, romaine, par rapport à plein de domaines, en particulier la vie, le domaine sexuel, eh bien, cette morale, elle est très, très inférieure, on peut le dire comme ça, à la morale juive. Parce que la loi guide les juifs dans ce domaine-là en particulier. Eh bien, le fait de posséder cette loi, eh bien, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que toi qui juges, tu transgresses aussi la loi. Il a dit exactement la même chose au début du chapitre 2, là en s'adressant à un public qui est moins défini que le passage qui nous occupe. Hein. Dans la même diatribe, hein, il dit, voilà, toi tu condamnes les autres, mais tu pratiques les mêmes travers que tu condamnes. Et comme on l'avait dit, en fait, il ne s'agit pas là de dire que ceux à qui Paul s'adresse pratiquent tous les péchés qu'il est en train de citer. D'accord ? Mais le régime de la loi fait que si tu violes un seul de ces commandements, eh bien, tu transgresses toute la loi. Et donc, le fait de s'appuyer sur cette loi, si tu ne la respectes pas complètement, tu es en train de t'appuyer sur une idée fausse. La circoncision, là aussi la circoncision, c'est un signe d'alliance donné par Dieu. Et les Juifs étaient... dans l'Empire romain, en fait, c'est amusant parce qu'il y a d'autres peuples hein, qui pratiquaient la circoncision, mais cette circoncision, elle est vraiment associée aux Juifs. Et les Juifs, donc, la vivent, évidemment, comme un commandement de Dieu, comme un moyen d'exprimer leur appartenance au peuple de Dieu. Et donc, Paul va ici souligner, en particulier, donc, cette circoncision, elle non plus, elle ne suffit pas. Parce que la vraie circoncision que Dieu attend, eh bien, c'est la circoncision du cœur. Ce n'est pas une idée complètement nouvelle, on trouve déjà cette idée-là dans l'Ancien Testament. Mais donc Paul met simplement en avant le fait que se reposer sur un signe dans la chair ne peut en aucune façon être suffisant dans la relation à Dieu. Et ce qu'il fait, donc il souligne donc cette insuffisance de la loi et de la circoncision, et il met en avant une autre classe de personnages qui est donc l'incirconcis. Et l'incirconcis, c'est qui? C'est le grec, c'est le pagano-chrétien. Et il va montrer aux Juifs que ces pagano-chrétiens accomplissent la loi. Si cet incirconcis accomplit ce que la loi définit comme juste, cet incirconcis ne sera-t-il pas considéré comme circoncis? Et cet homme qui accomplit la loi sans être physiquement circoncis te juge. Donc il met en avant le fait que, eh bien, dorénavant, ce n'est pas le fait d'être circoncis ou incirconcis qui conditionne la relation à Dieu, c'est la réalité de la relation à Dieu. C'est le désir d'accomplir ce qui est juste. Et au bout du compte, c'est l'action de l'esprit dans le cœur de l'homme qui le transforme et qui le rend capable d'accomplir finalement ce que Dieu attend de lui. Il est en train de... Donc Paul est en train de montrer simplement que Dieu redéfinit l'alliance qui avait été passée avec le peuple juif, basée sur la loi et la circoncision. Et il est en train d'expliquer à l'Église que l'alliance nouvelle, c'est celle de l'Esprit, qui transforme l'homme de l'intérieur, qui transforme son cœur. Alors, donc voilà le sens premier du passage qu'on a lu. C'est ce que Paul veut faire comprendre à ceux à qui il écrit. Évidemment, Pour nous, la question des judéo-chrétiens et des pagano-chrétiens, elle n'est plus vraiment d'actualité. Hein. Je ne pense pas qu'ici, parmi nous, on ait personne qui vienne d'un arrière-plan juif, hein. Ou peut-être très lointain, mais bon, malgré tout, on voit bien que c'est plus ça qui nous préoccupe. Pourtant, dans ce passage, on peut quand même... on en retire plusieurs choses, évidemment, mais... Une des premières transpositions qu'on peut faire à notre situation, c'est que quand on lit cette diatribe adressée aux Juifs, et quand Paul dit donc je relis les voilà, tu te reposes sur la loi, ok, tu te vends d'appartenir à Dieu, tu connais sa volonté, tu juges ce qui est le meilleur parce que tu es instruit. Si on remplace le mot juif par le mot chrétien, on se rend compte que ça marche aussi. Parce que cette lumière du monde, Christ nous appelle à être la lumière du monde. C'est vrai, comme les Juifs étaient aussi appelés à être un phare. Si on remplace le mot circoncision par le mot baptême. Alors, évidemment, hein, là, je fais une transposition, elle n'est pas complètement ni exacte ni juste, mais malgré tout, ça souligne simplement le fait que dans notre façon de nous approprier Dieu, il faut qu'on ait bien conscience que ce qui est reproché aux Juifs peut nous être reproché exactement de la même façon, et que l'attitude des Juifs qui s'appropriaient une connaissance, qui s'appropriaient des symboles comme étant suffisants pour être non seulement acceptés par Dieu, mais en plus à même de juger les autres, eh bien cette diatribe peut aussi s'adresser à nous. Parce que de la même façon que les Juifs pensaient posséder la loi, si nous-mêmes nous pensons posséder l'enseignement de l'Écriture et aussi la morale chrétienne qui va avec, si nous pensons que le fait d'avoir été baptisé, d'avoir été simplement... Alors, évidemment, ça dépend qu'est-ce qu'on met derrière ce mot baptême, mais malgré tout, quel que soit le symbole qu'on utilise pour penser être suffisant devant Dieu, eh bien, ce texte nous montre simplement que ce qui fait notre place devant Dieu, c'est pas ce que nous pensons savoir. Ce n'est pas non plus les actes symboliques que nous avons pu accomplir, mais c'est ce que l'Esprit travaille dans nos cœurs. Et le reproche que Paul fait aux Juifs peut nous être fait aussi. Si tu juges, si tu te places dans la position de celui qui juge le monde en disant « Voilà, moi je connais la loi, je sais ce qui est bon », eh bien Dieu peut nous reprocher... De la même façon, toi qui condamnes les autres, toi-même, tu transgresses la loi. Et nous savons que nous la transgressons, nous savons que dans notre vie, nous ne sommes pas exempts de péché. Nous-mêmes, nous transgressons la loi. Et quand Paul dit aux Juifs, voilà, à cause de vous, le nom de Dieu est outragé, alors il fait référence à la déportation. D'accord ? Où la désobéissance d'Israël a conduit à ce que Israël soit rejeté par Dieu et soit un objet de moquerie et de d'horreur en fait pour les autres peuples. Alors, mais donc de la désobéissance du peuple est venue une opprobre sur Dieu. On peut dire la même chose pour les chrétiens. Hein. C'est pas très compliqué de regarder dans l'histoire de l'Église toutes les fois où l'Église a accompli des choses qui finalement ont jeté une opprobre sur le nom de Dieu. On peut le dire sans se voiler la face. Hein. C'est clairement ce que voilà, les chrétiens ont fait trop souvent. Donc quand on prend ce passage-là en le prenant pour nous, évidemment c'est à une attitude légaliste qu'on pense, d'accord ? Ceux qui pensent être à même de juger les autres. Alors, c'est un cheval de bataille qu'on a souvent enfourché hein, dans notre Église, ce combat contre le légalisme. Donc, je ne veux pas trop en faire. Malgré tout, c'est vrai que c'est un défaut qui revient souvent et contre lequel je pense qu'on doit, on doit lutter chacun pour notre propre part. Parce que ça nous vient facilement de nous placer au-dessus des autres. C'est je pense, une tendance très humaine à vouloir être, à vouloir se mettre au-dessus. Et ce texte nous rappelle simplement que c'est l'esprit qui circoncit le cœur. Et que quel que soit notre arrière-plan, quelle que soit la connaissance que nous avons de Dieu, quel que soit notre engagement, notre position dans l'Église, eh bien, c'est l'Esprit qui doit circoncire notre cœur. Et tel est, je peux reprendre la dernière phrase de ce passage, en remplaçant juif par chrétien, mais tel est le chrétien qui reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. Parce qu'ici, quand Paul parle du vrai juif, il parle du vrai serviteur de Dieu, du vrai enfant de Dieu, du vrai membre du peuple de Dieu, parce que c'est de ça dont il s'agit. Ce passage met aussi en évidence, alors je vais essayer d'être bref, hein, parce qu'on a l'Assemblée générale tout à l'heure, donc je vais essayer de me tenir court. Hein. C'est difficile avec quand on étudie Romains d'être court, parce qu'il y a énormément de matière, énormément de choses à dire. C'est vraiment, moi je trouve ça, c'est un texte qui est vraiment passionnant. Mais bon, je vais quand même essayer d'être le plus bref possible. Ce passage met en avant une tension. Alors vous savez que moi j'aime bien parler de tension et de choses pour lesquelles il faut garder un équilibre et qu'il faut arriver à faire coexister. C'est vraiment une façon qui m'est chère de réfléchir. Et il me semble que dans ce passage-là, on voit une tension entre la sainteté et la colère de Dieu, colère sur le péché, et aussi son amour. Alors c'est plus particulièrement vrai dans la première partie. Mais malgré tout, une des difficultés de ce passage, c'est de voir en fait l'accent que Paul met sur les œuvres, sur le fait d'accomplir. Et ça semble rentrer en contradiction avec l'idée du salut par la foi, d'accord, qui est vraiment une idée fondamentale de Romains, que le salut vient de la foi, que c'est une grâce et que c'est pas accompli par les œuvres de la loi. Pourtant, là, Paul met particulièrement l'accent sur le fait que même les païens accomplissent la loi et que Dieu voit ce qu'ils accomplissent et voit leur justice. Alors, c'est là où c'est difficile parce que dans le chapitre 1 et dans le chapitre 3 qu'on n'a pas encore vu, l'idée que tous les hommes sont pécheurs est particulièrement forte. D'accord ? C'est une des idées fortes aussi de Romains. C'est cette idée que tous les hommes sont pécheurs, que aucune justice accomplie par l'homme n'est suffisante pour plaire à Dieu. Et dans Romains 8, verset 8, Paul va même dire « Aucun homme, selon la chair, ne peut plaire à Dieu. » C'est dur, ça, quand même. Hein. « Aucun homme, selon la chair », alors dans la traduction du Semeur, c'est traduit par « livré à lui-même », et c'est le sens, hein, effectivement, de « chair ».« Chair », c'est dans le sens de « sans Dieu ». Donc qui s'oppose à l'homme selon l'esprit. Donc l'homme selon l'esprit peut plaire à Dieu, mais l'homme sans l'esprit ne peut pas plaire à Dieu. Donc c'est quelque chose qui est, qui est, voilà, qui nous heurte. Et pourtant, là, dans ce passage, il parle des... alors, dans le nôtre, là, il parle des incirconcis. Dans la partie symétrique, il parle des païens. En effet, les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande cette loi. Ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Et donc là, on voit cette tension entre justement cette colère de Dieu qui s'abat sur le péché, sur cette sainteté de Dieu qui ne se contente pas d'une obéissance partielle, qui cherche la perfection, dans laquelle il y a un absolu de sainteté, un absolu de justice. Et donc, et ces versets où on voit Dieu qui voit des hommes accomplir ce qui est juste. Alors, évidemment, on comprend que cette justice que les hommes peuvent pratiquer, elle est imparfaite, qu'elle est incomplète, qu'elle est insuffisante. Bien sûr, tout ça, on le sait. Pourtant, ce texte nous dit, voilà, Dieu le voit, et Dieu le sait. Il sait ce que les hommes ont reçu, la loi ou pas la loi. Et il sait comment les hommes réagissent par rapport à ça, et il les voit faire le bien ou le mal. Et c'est lui qui juge de ça. Dans la première partie du chapitre, on voit même que donc il reproche à ceux qui jugent, et il leur dit « Bien, méprises-tu les trésors de bonté, de patience, de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer ?» Cet amour de Dieu dans la relation avec notre imperfection. Dieu connaît notre imperfection. Et cette imperfection, qui est un péché, Dieu la juge. Et Dieu la condamne. Et on verra plus loin même de quelle façon. Pourtant, il voit dans cette imperfection, il voit ce qui est bon. Pour moi, c'est quand même quelque chose qui me permet qui change ma façon de regarder le monde. On peut avoir tendance à s'approprier la sainteté de Dieu et à juger le monde comme étant sans valeur, comme étant complètement mauvais. Et à un certain niveau, c'est vrai. À un certain niveau, l'homme sans Dieu ne peut pas plaire à Dieu. Et pourtant, ce texte nous montre que Dieu voit quand même ce qui est bon. Voit quand même quand l'homme essaye de faire ce qui est juste. Et je pense qu'on doit avoir aussi ça présent à l'esprit et faire attention, justement. Donc, ce texte nous met en garde contre le jugement. Alors on peut justement s'approprier aussi cette façon que Dieu en Christ voit le bien et voit le mal. Et je pense qu'on peut nous aussi s'approprier cette position de voir que Dieu connaît nos limites. Et bien sûr, il est absolument saint. Et malgré tout, en Christ, il vient près de notre humanité, près de notre incapacité à faire ce bien absolu, à faire cette, à accomplir cette sainteté parfaite. Et donc je reviens à ce verset, qui pour moi vraiment est la charnière de ce texte. Tout cela paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que j'annonce, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. Et dans ce caché, il y a du mal et il y a aussi du bien. Alors je ne sais pas comment est-ce que vous recevez ce verset. Pour moi, je le reçois comme un encouragement, comme un encouragement à persévérer. Et je vais terminer avec ça. D'abord, la première chose que j'entends, alors c'est conformément à l'Évangile, conformément à la bonne nouvelle. D'accord ? L'Évangile, c'est ça, c'est une bonne nouvelle. Conformément à la bonne nouvelle que j'annonce, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. Cette bonne nouvelle, c'est que en Christ, je suis justifié. Donc, cette annonce du jugement, qui peut être effrayante, et qui l'est, hein, par plein d'aspects, cette annonce qui peut être effrayante, eh bien, elle est d'abord couverte par la grâce, couverte par cette bonne nouvelle que, quel que soit ce que j'ai caché, ma justice devant Dieu viendra de celle de Christ. Donc c'est ça ma sécurité. C'est ça mon assurance. En Christ, je serai jugé. Couvert par son sang, couvert par sa justice. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Dieu va juger ce que j'ai fait. Alors, comme je l'ai dit, ça peut être effrayant, mais en même temps, c'est aussi un grand encouragement. Parce que si on pense que tout va simplement être effacé, alors il y a une partie va être effacée, c'est vrai. Parce que mon péché sera rejeté loin de lui, tel l'Orient à l'Occident, enfin... Bien sûr, malgré tout, mes actions seront jugées. Ça veut dire que ce que je suis en train de faire maintenant, là, tous les efforts que je fais maintenant, tout ça ne va pas simplement être effacé en disant bon, bah, c'est bon, allez, on oublie tout et on repart à zéro. Parce que si c'est ça, à quoi bon faire des efforts ? Si au bout du compte tout est effacé, eh bien ma foi, que je fasse le bien ou le mal, pour peu que je m'attache à Christ. C'est pas comme ça. Ce qui est caché sera révélé. Ça donne une valeur à ce que je fais maintenant, aux efforts que je fais maintenant, parce que Dieu va me demander, Dieu va m'en parler de ça. Il va me dire. Je t'avais donné ça. Je t'avais donné ce talent. Alors qu'est-ce que tu en as fait ? Tu as vécu telle épreuve. Qu'est-ce que tu en as fait ? Tu as été blessé, abusé. Qu'est-ce que tu en as fait ? Tout ça va être révélé. Tout ce qui était caché dans mon cœur va être révélé, pour le bien et pour le mal. Donc tout ce que je fais maintenant a une valeur pour l'éternité, elle se sera jugée devant Dieu. Alors bien sûr, c'est vrai, comme je l'ai dit, il y a une part où c'est effrayant, mais en même temps, il y a une grande espérance. Une grande espérance parce que On le voit là, l'homme est incapable de juger, incapable de vraiment juger. Parce qu'il ne peut pas voir ce qu'il y a dans le cœur, il ne peut pas voir les intentions. On entend souvent, y a des procès, les hommes essaient de juger, d'accord? Les choses qui ont été mauvaises, les actions, les meurtres, les viols, tout ce qu'on peut imaginer, le terrorisme, tout ça. Et souvent, alors, bon, on a un avocat ici, je ne veux pas trop critiquer le système judiciaire, mais en tout cas, l'espérance que les gens peuvent mettre dans ce système judiciaire, pour moi, il y a une part d'illusoire. Espérer qu'un jugement permettra de montrer pourquoi, comment, quelles intentions étaient là, quelle est la culpabilité profonde ou pas des gens, quelque part, je pense que c'est on en attend trop. Mais ici, le jugement sera vrai et sera juste. Tout ce que j'ai accompli, je ne sais pas. Je ne sais pas si alors je sais que je n'ai pas été à la hauteur, je ne sais pas jusqu'à quel point. Il y a des choses que j'ai fait en espérant les faire bien. D'autres où je me rends compte que je me suis planté. Et dans tout ça, même pour moi, je ne suis pas capable et j'ai envie de dire, même avec l'aide de l'esprit, parce que je suis encore dans ma nature humaine, et je suis incapable de savoir ce qui était... jusqu'à quel point c'était bon ou c'était mauvais. Et ça peut être un poids de devoir s'évaluer en permanence. Et c'est normal de le faire, de juger ce qu'on fait, mais jusqu'à un certain point. Et bien ce point, justement, c'est de pouvoir abandonner à Dieu ce jugement. Ce jugement sur les autres, et puis aussi ce jugement sur moi-même. Parce que ce texte me rappelle que en Christ, Dieu va juger ce qui était caché, ce qui était caché dans mon cœur. Et je peux le lui remettre. Je peux le lui remettre. Parce que je sais qu'au bout du compte, c'est son amour qui prévaudra. Et c'est sa grâce qui prévaudra. Et c'est ce qu'on a rappelé la semaine dernière, dans le message de Tard. Donc je termine en disant vraiment que ce passage, pour moi, c'est un encouragement à faire de son mieux. Parce que Dieu voit notre mieux, à le faire en recherchant toujours le renouvellement de notre cœur, de notre pensée, par l'Esprit. Parce que c'est ça que Dieu fait à l'intérieur et c'est ça qu'il recherche dans notre vie, que l'Esprit nous renouvelle et nous change. Et en abandonnant à Dieu le jugement. Le jugement sur les autres et même le jugement sur moi-même. Donc voilà, je m'arrête là. J'espère pas avoir été...